Go, la revue presse JB.
Ce podcast est disponible H24 sur iTunes, PodCloud,
Deezer.
C'est pas sexy Sarah ça.
C'est pas sexy choucroute Sarah ça.
Bienvenue à toutes et tous, bienvenue pour une nouvelle revue de presse JV. Moi c'est Bruno Roca, je suis heureux de vous accueillir pour une nouvelle semaine de news, de rigolade, de bonne humeur. Nous sommes le lundi 18 juin 2018, vous le savez, vous êtes dans votre podcast quotidien, le seul, l'unique qui vous parle de jeux vidéo chaque matin. Et donc ce que je vous propose, c'est qu'on attaque ni plus ni moins, oui avec le « ce » à la fin, qu'on attaque une belle brochette de news. Allez, c'est parti! On démarre cette brochette de news avec Agelos de Storybird Games, ce jeu conçu par François Pérez, hein, alias Wonderboy Bobby, qui s'inspire énormément de Wonderboy, mais pas que, hein, qui va un peu plus loin que cela. Bref, ce jeu au look 8-16 bits savoureux qu'on attendait depuis très longtemps, et ben ça y est, ça sort demain sur Steam, et peut-être même dans quelques temps sur Switch. Alors là vous allez me dire, tu me dis que c'est savoureux, c'est super, etc. Mais tu serais pas un petit peu parti pris, mon petit Bruno, puisque je travaille actuellement en tant que game designer, vous le savez, en tout cas pour ceux qui me suivent, pour Storybird Games. Donc, je vous ai posé la question hier sur Twitter, si le fait d'en parler ça vous gênait, visiblement non. Donc en toute transparence, je vous le dis, effectivement, Storybird Games, je travaille pour le studio sur un projet actuellement. Je vous annonce quand même la sortie d'Agelos demain, parce que je sais qu'il était énormément attendu par certains d'entre vous. Donc voilà, je vous balance la news ce matin, en toute transparence, les yeux dans les yeux, monsieur Bourdin, je vous le dis. Passons du côté de FF7 Remake, puisque Tetsuya Nomura a causé avec The Verge, hein, et leur a confirmé que le développement d'FF7 Remake continuait, qu'il n'y avait pas lieu de s'inquiéter, et que même ce développement allait très certainement s'accélérer dès le mois de février prochain, une fois que le très attendu Kingdom Hearts 3 sera sorti le 29 janvier 2019, je vous le rappelle. Donc ceux qui besognaient comme des petits foufous sur Kingdom Hearts 3 vont bifurquer sur le dev d'FF7 Remake, ce qui devrait lui donner un bon coup de boost. Puis si cela est toujours trop long pour vous, n'hésitez pas à faire comme tout le monde, c'est-à-dire une pétition. Du côté de Capcom, un communiqué nous a appris que Devil May Cry 5 sera bien commercialisé avant la fin du mois de mars 2019, donc c'est sur cet exercice fiscal, et ça, c'est quand même une très bonne nouvelle, j'ai envie de vous dire. Alors, on avait parlé dans l'émission la semaine dernière d'un teaser qui nous annonçait, hein, on l'avait vu venir à 10 000 km, un jeu Kill la Kill, et ça y est, ça a bien été confirmé par Arc System Works, hein, qui a donc bien confirmé le développement d'un jeu vidéo basé sur ce célèbre animé du studio d'animation Trigger, hein, qui était sorti en 2013 et qui est culte, hein, pour beaucoup de monde. Alors, personnellement, j'ai pas super accroché, mais je reconnais que les phases de baston sont assez folles. Donc ce sera un jeu jouable à deux. On n'a pas beaucoup d'infos pour le moment. Bon, visiblement, on se dirige vers un jeu de combat en 3D. Par contre, la petite douche froide, c'est que ce n'est pas Arc System Works, hein, les petits gars de Guilty Gear, de Dragon Ball Fighters, etc., de BlazBlue, qui vont s'en occuper, mais le studio A+ Games, qui n'est pas des plus talentueux, en tout cas qui n'a pas tellement brillé ces dernières années. Donc, méfiance et boule de gomme, hein, comme disait ma grand-mère, mais voilà, on va surveiller ça, peut-être qu'on on sera surpris au final, pourquoi pas. Le site nintendotown.fr nous rapporte des propos de Reggie Fils-Aimé, qui a été interviewé lors de l'E3 2018 par IGN, et qui nous affirme ceci, je le cite, « Le successeur de la console virtuelle est le Nintendo Switch Online, avec l'idée d'offrir une nouvelle gamme de jeux, et c'est une offre qui va grossir au fil du temps. Pour beaucoup de ces jeux, il va y avoir l'ajout du mode en ligne. C'est pour nous la meilleure façon de transmettre notre contenu existant sur la Nintendo Switch. » Il a également dit « Nous pensons que les gens vont s'abonner à Switch Online. Et je dis cela parce que nous avons présenté une offre accès sur le jeu compétitif. Vous obtenez également l'accès cloud pour les sauvegardes et vous avez accès à du contenu exclusif. C'est une proposition fantastique pour 20$ par an. En fait, cela nous permettra de continuer à offrir une gamme variée d'opportunités du point de vue de l'expérience en ligne. » Je résume, vous le savez, la console virtuelle, pardon, telle qu'on l'a connue sur les anciennes consoles Nintendo, On l'attendait comme des dingos sur la Switch, et visiblement ça va prendre une forme différente, donc avec le Nintendo Switch Online qui par mois, donc au-delà de vous offrir la possibilité de jouer en ligne et voilà de sauvegarder en cloud, hein, comme on vient de le préciser, et plein de petites autres surprises, hein, qu'on attend, permettra donc de jouer à des jeux entre guillemets offerts, hein, je dis bien entre guillemets, des vieux jeux NES, Super NES, etc. Et vraisemblablement, en tout cas voilà, c'est ce que déclare Reggie Fils-Aimé, l'esprit de la Virtual Console donc va s'immiscer dans ce Switch Online avec des jeux, des hits ancestraux de Nintendo qui nous seront offerts à foison. Alors, il y a encore des grandes zones de flou, et comme d'habitude, comptez sur moi pour vous tenir au courant dès qu'il y a du nouveau. Enfin, terminons cette brochette de news avec Ace Combat 7, qui a quand même été annoncé, hein, on l'a pas vu dans une conf, non, pas du tout. Gamecult nous rapporte et poste même une bande-annonce, hein, je vous mettrai le lien dans la description de l'émission comme d'habitude, et qui nous dit qu'encore un salon de traversée et toujours pas de date de sortie pour Ace Combat 7, Skies Unknown, qui porte bien son nom du coup, annoncé au PlayStation Experience 2015. Hein, le jeu de Bandai Namco devrait même se faire désirer pendant encore un moment, hein, nous dit Gamecult, si l'on se fie à l'absence totale de fenêtre de lancement dans la communication de l'éditeur. Pour le moment, donc, il y a une nouvelle bande-annonce qui met en valeur l'impact des effets météo sur les conditions de vol et de combat. Alors, on nous rappelle que cet épisode racontera une histoire située chronologiquement entre Ace Combat 3 et Ace Combat 4 lors de la Seconde Guerre continentale UZN, laquelle a lieu en l'an 2019, hein, dans le jeu, et qui risque bien de devenir aussi sa véritable année de sortie, nous dit un poil taquinou Gamecult. Allez, on passe à la suite. Taro Yoko, Yosuke Saito et Takahisa Tora parlent d'un portage de Nier Automata sur Nintendo Switch. C'est Nintendo Différence qui nous rapporte ça, qui nous précise qu'en janvier 2017, le designer Takahisa Tora avait été interrogé au sujet d'un éventuel portage de Nier Automata sur Nintendo Switch. Le jeu était sorti en 2017, hein, sur PlayStation 4 et PC. Je le rappelle, hein, il est le fruit de l'alliance entre Platinum Games et Square Enix via l'esprit complètement génial et torturé de Taro Yoko. Vous le savez que c'est l'un des jeux de ma vie, je le répète à chaque fois, c'est un jeu absolument extraordinaire, autant par le fond que sur la forme. Et donc Nintendo Différence nous dit que, à l'époque, Monsieur Tora avait simplement répondu que Platinum Games en développera donc un portage Switch si Square Enix finance le projet. Depuis, donc, aucune nouvelle de ce portage, mais le jeu a gagné de plus en plus en popularité, vous le savez, c'est limite miraculeux, hein, un jeu de niche à ce point-là qui parle vraiment, qui a fait tache d'huile, hein, qui parle de plus en plus au plus grand monde, ça c'est assez extraordinaire, et maintenant, le jeu a dépassé les 3 millions d'exemplaires dans le monde, et effectivement, bah, le portage Switch peut là s'avérer de plus en plus probable. Pendant le 3 2018, nous dit Nintendo Différence, Square Enix a annoncé la version Xbox One, hein, vous le savez, on en a parlé dans l'émission, qui sera donc disponible uniquement en version dématérialisée le 26 juin prochain. Donc la question du portage sur Switch, hein, est revenue de plus belle, mais cette fois-ci, nous dit-on, ce sont les développeurs eux-mêmes qui en ont directement parlé sans qu'un journaliste vienne leur demander finalement. Donc en effet, durant le dernier jour du stream officiel Square Enix, hein, donc de l'E3, le réalisateur et scénariste Taro Yoko, le producteur Monsieur Saito et donc le designer Monsieur Tora, sont apparus pour partager un petit message au sujet du portage Xbox One. Par la suite, contre toute attente, hein, nous dit-on, Yoko Taro a évoqué une version Switch. Comme à leur habitude, hein, les trois hommes ont fait des blagues tout en discutant de la possibilité de ce portage, et il était assez difficile de savoir quelle déclaration devait vraiment être prise au sérieux. Alors vous savez que Taro Yoko a l'habitude, hein, souvent de soit de ne pas avoir la langue dans sa poche, soit de partir dans des délires complètement complètement frappadingues, et on ne sait pas parfois si c'est du lard ou du cochon justement. Alors voilà comment ça s'est passé, hein. Taro Yoko a commencé en demandant à Monsieur Saito quand est-ce qu'une version Switch de Nier Automata allait sortir. Ce à quoi le producteur a répondu que ce n'était pas à lui de décider, car Platinum Games prend beaucoup de temps à développer chaque jeu pour chaque console, la preuve, hein, donc avec l'édition Xbox One sortie plus d'un an après la version PS4. Monsieur Tora, quant à lui, préférait ne pas en parler puisqu'il pensait que cela n'était pas une bonne idée de lui poser des questions sur quelque chose d'aussi gros. Cependant, Taro Yoko ne voulait pas lâcher le morceau et a carrément dit au designer « Je veux une version Switch, Tora, donne-la-moi !» Hein, je le cite. Et donc face à l'insistance Taro Yoko, Tora a finalement dit que lui aussi, il aimerait voir une version Switch puisque c'est ce que tout le monde veut au final. Alors là déjà, je trouve que s'il n'y a pas des indices gros comme des sabots, j'ai envie de vous dire, ça ne veut rien dire, mais enfin bref, vous voyez un peu le topo. Bref, je poursuis le report de Nintendo Différence qui nous dit que donc, Monsieur Saito a continué cette discussion en indiquant que si suffisamment de personnes manifestent l'intérêt, en demandant un portage Switch à Monsieur Tohra sur Twitter, alors cela pourrait arriver. Toutefois, même si c'est le cas, cela pourrait prendre environ 2 ans. Et donc Monsieur Saito fait référence à la version Xbox One qui a mis plus d'un an à arriver. Pour finir, Monsieur Tohra demande surtout de contacter Monsieur Saito, qui possède lui aussi un compte Twitter, à propos d'une version Switch de Nier Automata. Il reste donc à savoir si tous ces bougres étaient réellement sérieux lors de ce petit sketch. Mais vraiment, je pense que ça sent bon, d'autant que Nintendo Différence sort un comparo qui est tout à fait pertinent, puisqu'il nous parle de la productrice de Dragon Ball FighterZ, Tomoko Hiroki, qui avait déclaré, il y a environ un an de cela, que si les fans de Dragon Ball FighterZ voulaient absolument voir le jeu sur Nintendo Switch, eh ben, il fallait qu'il se manifeste, qu'il se fasse entendre. Et là, vous avez vu que ça arrive. Donc pourquoi pas. Moi, je vous le dis tout de go. La Switch est vraiment, j'ai un gros coup de cœur pour cette console, et vous savez l'amour que je porte à Nier Automata, je crois que je repasserai, je suis sûr que je repasserai à la caisse, vraiment, sans l'ombre d'un doute, voyez-vous, voilà, traitez-moi de pigeon si vous voulez, mais Nier Automata le vaut bien. Naufrag nous en dit plus sur Fallout 76, qui a soulevé bien des interrogations et des peurs aussi. Ça a frissonné un petit peu partout chez les fans de la saga. Et donc, Naufrag nous dit que bon nombre d'interviews ont été effectuées concernant le jeu durant l'E3 qui vient de s'écouler. Et Naufrag donc a eu la bonne idée de compiler un peu toutes ces réponses pour avoir une sorte de condensé, pour synthétiser un petit peu toutes ces annonces qui ont été faites, ces précisions concernant le gameplay, le contenu du jeu. Donc, accrochez-vous, voici la liste délivré par Naufrag, et je pense que vous êtes beaucoup à attendre Fallout 76 parmi vous. Voici ce qu'on peut en dire. Donc tout d'abord, on a appris que les clans, les groupes se limiteront à 4 personnes. Il y aura quelques dizaines de joueurs par serveur, ce que je rappelle qu'il est dédié multi, sur une map 4 fois plus grande que celle qu'on a pu voir dans Fallout 4. Récupérer les codes de lancement nucléaire sera très difficile. On ne devrait pas avoir un hiver nucléaire toutes les 30 secondes en clair. Vous savez qu'il y a ce système aussi de code nucléaire pour faire péter la bombe. Tout ceci est encadré, messieurs dames. Donc la météo sera dynamique. Le lancement d'un missile nucléaire est considéré comme un contenu end game. Le lieu d'explosion sera peuplé d'ennemis à haut niveau ainsi que de ressources très rares. Les radiations donneront lieu à des mutations sous forme de buffs ou debuffs. Lorsque la zone irradiée est à nouveau saine, il sera possible de construire. Il sera possible également de sauvegarder sa base entière sous forme de blueprint pour la bouger en une seule fois sur la carte. Alors ça, c'est pas mal avec le plan, ce sera un petit peu plus simple. Si votre base est détruite par contre, il ne sera pas nécessaire de la reconstruire, mais simplement de réparer chaque pièce individuellement. Votre base est reliée à votre compte. Lorsque vous êtes déconnecté, elle disparaît avec vous. Au cas où une autre base est construite entre-temps à votre emplacement alors que vous êtes déjà hors ligne, votre base sera dans votre inventaire, il suffira de la placer ailleurs. Le PVP donc est possible, mais ne drop aucun loot, uniquement de l'argent et un peu d'expérience. Les serveurs privés avec possibilité de mod seront ajoutés plus tard, ce ne sera pas dispo tout de suite. Tous les joueurs sur le serveur seront visibles sur la carte. L'histoire et les quêtes sont données par des robots, holotape. L'histoire se déroule avant le premier Fallout. Voilà, ça, pour ceux qui sont passionnés du lore de Fallout, ça, c'est une précision quand même importante. Aucun NPC humain n'est présent. Rencontrer un humain est synonyme de croiser un autre joueur. Voilà. Vous pouvez attribuer vos stats avant de quitter le Vault, l'abri 76 au début du jeu. Il y aura des DLC gratuits, mais la présence de microtransactions cosmétique. Enfin, la map ne sera pas dans votre Pip-Boy, mais en version tout simplement papier. Un plan, grosso merdo. Voilà la petite liste de ce qu'on a appris en plus sur Fallout 76. Je sais que c'est un petit peu fait, c'est un peu soufflé chaud et le froid, l'annonce de Fallout 76. Dites-moi sur les réseaux sociaux, notamment le compte Twitter, @revuedepressejv, ou sur le Discord. Le lien et dans la description de l'émission, bien sûr, comme d'habitude, ce que vous en pensez, cette orientation multi, le fait que ce soit pas, comme certains le disent, hein, un vrai, entre guillemets, Fallout, est-ce que tout ceci vous fait peur, ou est-ce que vous lui laissez sa chance, finalement, et que, au bout du compte, ça vous titille pas mal. Voilà, dites-moi tout ça. Puis je crois que là, de toute façon, on se dirige vers la fin de l'émission. Et oui, il est grand temps, mes amis. C'est ainsi que se termine cette édition de la revue de presse JV, mais pas de panique, on se retrouve demain, même heure, même flux, même chaîne. La maison est ouverte, H24, 7 jours sur 7, vous ne le savez que trop bien. Je vous souhaite une excellente journée, n'hésitez pas à partager un max, et je vous fais des gros bécos. Vive le jeu vidéo, vive la République, vive la France, et donc à demain. Allez, bye bye.